d'Odéon, quel temps fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi au sein des vignes du Seigneur? Si de temps en temps une dame d'antan se laisse embrasser, sûrement papa, que tu regrettes pas d'être passé. Et si le bon Dieu aime tant soit peu l'accordéon, au firmament tu plais sûrement, mon vieux Léon.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité. La radio de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Et nous sommes deux aujourd'hui avec Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Et nous allons parler d'un bouquin que décidément on aime bien ici dans cette émission. C'est « Je ne serai plus psychiatre » de Gérard Hoff. Nous allons avoir le plaisir de vous en lire encore quelques extraits. Auparavant, une petite chanson.
Viens voir là.
À genoux, papa, moi aussi. Qu'est-ce que tu penses de la sélection naturelle?
Lâche-moi.
Hein?
Thank you.
Radio Libertaire, c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, et nous venons d'entendre Brigitte Fontaine. Avant de commencer la lecture du livre d'extrait du livre de Gérard Roff, je ne suis pas psychiatre, je ne serai plus psychiatre, mais bon, décidément. J'avais une petite un petit survol de la presse autour de la psychiatrie. Par exemple, dans Slate, un article du 1er septembre 2024. Le bal des folles, l'étrange thérapie dansante de la Salpêtrière au 19e siècle. Alors, c'est une espèce de, d'article évoquant l'histoire. L'asile parisien organisait chaque année un bal où étaient conviées quelques personnalités de la haute bourgeoisie. Mais c'était les patientes qui occupaient la piste de danse. C'est une scène qui revient à chaque printemps dans le grand salon de l'hospice de la Salpêtrière. À l'occasion du carême, un grand bal dépoussière le vieil hôpital, levé en 1656 sur un ancien dépôt de munitions. Tout y est, petit four, musique entraînante, costumes bariolés. On pourrait se croire dans un salon mondain si quelques infirmières mêlées à la foule ne surveillaient pas avec attention la cohorte des danseuses. Très avenantes, sous leurs petits bonnets de tulle blanc, les infirmières affairées distribuent aux danseuses les verres de sirop et les petits gâteaux, écrit un journaliste du Petit Parisien venu assister à la fête en mars 1887. Et tout ce monde joyeux, là, le rose aux joues et l'éclair du plaisir dans les yeux, c'est la folie pourtant, ajoute-t-il. C'est la folie en effet, car les femmes qui se trémoussent au milieu de la grande salle sont toutes des, entre guillemets, aliénées, internées à la Salpêtrière. Cet immense complexe psychiatrique situé au sud de Paris est un labyrinthe de vieilles pierres et de verrous grinçants. Au XVIIe siècle, les aliénés y croupissaient dans la crasse et la poussière et on y internait aussi bien les femmes victimes de troubles mentaux que les sorcières et les prostituées. Un siècle plus tard, les conditions d'internement se sont nettement améliorées et la Salpêtrière jouit d'une excellente réputation, notamment depuis que sa chaire de neurologie, la première au monde, a été confiée en 1882 à Jean-Martin Charcot. Cela fait 20 ans que le célèbre neurologue s'intéresse à l'hystérie, pathologie incomprise, que l'on associe aux femmes, le mot est d'ailleurs calqué sur utérus, et qui se manifeste par de violentes crises convulsives. Les savants du temps pensent qu'un dérèglement de la sexualité féminine est en cause, raison pour laquelle on prescrit encore des messages pelviens pour les en soulager. Un traitement qui conduira quelques années plus tard à l'invention du vibromasseur. Bon. Si le professeur Charcot n'est pas directement en charge du service des aliénés, il contribue à déraciner quelques idées reçues. Selon lui, l'hystérie n'est pas liée à l'utérus, mais à un trouble cérébral. Le neurologue avance dans le noir. Les symptômes de ses patientes mettront plusieurs décennies avant d'être appréhendés par la science. En attendant, les médecins de la Salpêtrière tâtonnent, apaisant les crises d'hystérie avec de puissants psychotropes comme l'éther et l'opium, dont on ignore encore les effets secondaires. Alors, Charcot innove en organisant chaque vendredi des séances publiques d'hypnose auxquelles il convie journalistes, étudiants en médecine et curieux de tous bords. De son propre aveu, il exhibe une sorte de musée pathologique vivant lors de démonstrations à l'éthique douteuse. Le fameux bal annuel des hystériques est du même acabit. Mi-expérience thérapeutique, mi-spectacle malsain, il permet d'ouvrir en grand les portes de la Salpêtrière et d'offrir ses patientes à la vue du public. Organisée une fois l'an, entre février et mars, cette tradition remonte aux années 1830. La notoriété du neurologue aidant, plusieurs invités de marque se pressent pour y assister. Aristocrates, peintres, politiciens, artistes, architectes, on peut y croiser Guy de Maupassant ou Gustave Eiffel, qui viennent y frôler la déraison en observant ces femmes déboussolées se trémousser sur des airs de polka. Un autre extrait de journaliste. Les intelligences se confondent avec les cerveaux vides, décrit un journaliste du Figaro en février 1863. Le costume qui est de rigueur établit une triste égalité entre les folles et leurs gardiennes et au milieu de ces groupes de masques, on distingue la tenue sévère de la surveillante toute de noir habillée qui se promène à travers ce beau bal comme une mère en deuil qui pleure la raison absente de ses enfants. Fin de citation. Mais cette mascarade frisant le voyeurisme a-t-elle véritablement la moindre vertu thérapeutique ? Étonnamment, l'article se poursuit, c'est le cas, les pensionnaires se réjouissent de participer à la fête ou de préparer en amont leur déguisement pour le jour J. Pourquoi ? Sans doute parce que cette soirée ressemble à la vie normale. C'est une des rares occasions de se laisser aller au cœur d'un quotidien plutôt morose, de libérer son corps et son esprit du diktat thérapeutique. Si toutes ces pauvres femmes, profitant d'un court répit, semblent oublier leur mal, on sent qu'il les guette et que d'un instant à l'autre, il les couchera tordues dans des crises terrible, soupire un envoyé du Monde illustré en mars 1890. Certaines internées en tirent de précieuses leçons. Jeanne Avril à la Salpêtrière, à cause d'un trouble neurologique, la Corée de Sydenham deviendra, peu après sa sortie de l'institution en 1884, une vedette du Moulin Rouge. Et en dépit des critiques d'un tel spectacle, qu'un tel spectacle soulève, il a au moins le mérite de faire évoluer la vision de la folie dans l'opinion, transformant ce sujet tabou coincé derrière des murs clos en un sujet de société. On penserait, n'est-ce pas, qu'un bal organisé de la sorte doit être le déchaînement de la démence, conclut le reporter du Petit Parisien. Eh bien, il n'en est pas ainsi. Rien de plus paisible, de plus calme, de plus doux, rien qui soit d'un esprit plus débonnaire et plus racinérant que ce bal des folles. Fin de citation.
Est-ce que je peux juste faire un commentaire ? C'est que, oui. En fait, 100 ans plus tôt, il y avait le marquis de Sade, interné comme d'habitude. Enfin, je veux dire, il a passé son temps entre la prison et les hôpitaux psychiatriques. Comme il avait horreur de s'emmerder, c'était absolument pas à visée thérapeutique, c'était pas tellement ses préoccupations. Je sais pas si tu as entendu parler d'un film situationniste, un film de Guy Debord qui s'appelle Hurlement en faveur de Sade. Et c'est un film noir, d'ailleurs, où on entend, je sais pas quoi, je l'ai même pas vu, mais je connais le titre et tout. Et en fait, ça fait allusion au fait que quand il était donc à l'asile, il avait décidé d'organiser des pièces de théâtre pour pas s'embêter, quoi. Donc il avait écrit des pièces, enfin, rien à voir avec ce qu'il écrivait d'habitude, au point de vue cochonnerie et tout, mais comme ça, il faisait jouer les fous, enfin, ses collègues et tout, dedans, et ceux qui étaient trop fous, entre guillemets, pour pouvoir jouer, enfin, apprendre un rôle, oui. Même approximativement, était installé dans la salle, était chargé de hurler pour encourager les acteurs. Donc, du coup, ça faisait un truc assez bizarre, si tu veux, et qui était devenu le dernier chic parisien. C'est-à-dire que des hommes et des femmes, tu sais, mais vraiment des bourgeois, se pressaient pour voir ça, parce que oh, c'est tellement original, tout, tu vois. Donc, quelque part, il y a le même truc bizarre, parce que apparemment ça leur faisait du bien, parce que, bah, ça d'en premier, évidemment, mais parce que ça allait changer du genre de thérapie qu'on leur faisait d'habitude, c'est-à-dire uniquement être enfermé, attaché, collé dans un bain toute la journée, enfin tu vois. Donc en effet, ça pouvait que leur faire du bien. Oui. Sans parler de guérir, ils pouvaient pas le prendre mal, mais c'est cette espèce de récupération spectaculaire. Alors, je sais pas ce que cherchait, quel était le point de vue de Guy Debord sur le, puisqu'il a, en faisant un film qui s'appelle Hurlement en faveur de Sade, mais quelque part, c'est un truc qui a presque une valeur de fable. Il y a un côté comme ça où on a le sentiment qu'il y a quelque chose de très spontané d'un côté et de complètement à l'image de tout ce que la société a de plus pourri de l'autre, quoi. Donc, c'était avant la Révolution. Hein. Donc, oui. Voilà, ça me faisait penser à ça. C'est tout.
Alors, on part avec Gérard Hoff. Je ne serai plus psychiatre. Alors là, dans le chapitre 3... Il y a on rappelle que à ce moment-là du livre, l'auteur est psychiatre au Vinatier, à l'hôpital du Vinatier. On est dans les années 70, et c'est donc à Lyon, dans la région de Lyon. Et là, il se passe un congrès, donc le congrès de Marseille, cette année-là, donc c'est en 70. Et donc les internes de toute la France vont les internes des hôpitaux psychiatriques régionaux se donnent rendez-vous donc à ce congrès. À mon arrivée dans un grand hall de je ne sais quel bâtiment moderne de Marseille, on m'a remis une serviette de cuir avec à l'intérieur disposé avec soin le nécessaire de bureaucrate, papier, stylo, bloc-notes, des publications pseudo-scientifiques du grand patron machin chantant très lucrativement les louanges de la drogue truc qui sera bientôt commercialisée par les laboratoires Intel sous le nom de nanana, des cartes d'invitation à des repas de gala de la part de tel et tel laboratoire. Ces derniers se sont prestigieusement chargés, comme il se doit, de la reproduction de la force de travail des congressistes à tous les repas du congrès. Dans l'antichambre du congrès, des stands de propagande permanente de médicaments calmants et neuroleptiques, la foire de la répression chimique chronique. Je me suis laissé attirer par la souris blanche d'un étalage qui passait son temps à s'évader d'un labyrinthe en plastique transparent. Les docteurs Intel et Intel ont calculé le nombre statistique moyen d'évasion d'un grand éventail de souris blanches par 24 heures d'un labyrinthe de ce type avant et après imprégnation par le produit Intel. Comme vous pouvez le constater sur nos plaquettes, la souris s'échappe trois fois plus souvent après imprégnation de notre produit. Nous vous le conseillons tout particulièrement pour les malades dont vous espérez secrètement la fuite de l'institution qui garde toujours, hélas, à un niveau ou à un autre, un aspect carcéral. Notre spécialité est dépourvue d'amphétamine, vous expliquait la représentante à votre approche tout en remettant à chaque évasion la souris dans le labyrinthe. Je tombais en arrêt. J'étais fasciné subitement par les capacités sournoises d'une publicité fondée sur les enquêtes de motivation. Le stand rivalisait avantageusement avec les stands périmés de la répression chimique. Ce n'était pas un hasard si je m'étais spontanément dirigé dans sa direction. La sollicitation m'insultait d'autant plus qu'elle faisait mouche. Elle me mettait en pratique directement en face de l'ambiguïté intenable de ma situation. C'était une publicité à double, triple, quadruple fond, comme ces étiquettes de boîtes de camembert figurant un gros moine jovial proposant d'un air gourmand au consommateur une boîte de camembert où l'on voit un gros moine jovial proposant d'un air gourmand au consommateur une boîte de camembert où l'on voit un gros moine jovial. Cette publicité était faite sur mesure pour le type même de la masse des congressistes, internes petits bourgeois travaillés sur leur gauche par les avantages de plus en plus aléatoires de leur profession, de plus en plus menacés depuis mai 68. De même qu'ils disposaient des neuroleptiques pour se protéger des malades contagieux, de même, ils auront maintenant ce produit pour se décharger de leurs responsabilités. La fugue elle-même était fantasmatique, bien sûr, et, comme d'habitude, c'était au psychiatre de se soigner en prescrivant. Le couple souris-femme, exerçant éternellement des gestes antagonistes, symbolisait à l'envi le malade et son psychiatre. La bourgeoisie pouvait massivement halluciner dans cette image le désir de son maintien au pouvoir grâce à une même prescription éternellement répétée. Je m'imaginais, nouveau prêtre d'un nouvel au-delà, distribuant humblement à mes malades cette nouvelle Eucharistie. Pour les besoins de la statistique, une masse considérable d'assistants techniques dans les laboratoires de recherche répètent inlassablement, des années durant, ce même geste sans avoir accès aux résultats. La science de la séparation a son prolétariat et utilise rationnellement la division et la spécialisation du travail. En l'occurrence, dans les laboratoires des docteurs Intel et Intel, au nom d'une prétendue liberté chimique du genre humain, des hommes s'étaient aliénés des jours durant en aliénant des souris. Je me suis brusquement éloigné en me gardant bien de prendre des documentations, mais tous les jours, au passage devant cette femme avec sa souris, chaque spectateur pouvait se féliciter secrètement de la permanence et de la toute-puissance de son bon vouloir. Sans qu'il puisse être assimilé à l'exploiteur, la femme remettait sans cesse pour lui la souris dans sa cage, qu'il soit présent ou absent. Lui-même était en dehors des gestes répétés de la production, ce qui fut le rêve de tout étudiant en médecine. Ainsi, les infirmiers sont-ils chargés de contenir 24 heures sur 24 les malades dans les murs, à la disposition du psychiatre. Voilà, donc oui. On peut l'appeler la métaphore de la souris dans le labyrinthe.
Et toi, ça te provoque quoi quand tu lis ça, enfin, comme sentiment ?
C'est une question un peu difficile.
je sais pas ce que je ressens.
Cette idée de la. Je partage assez cette idée d'une répétition à travers ce qu'on appelle aujourd'hui en psychiatrie la chronicisation des patients en psychiatrie. L'administration à vie du traitement et avec le postulat de départ que la maladie du patient est incurable.
Et c'est vrai que, pour moi, le fait de faire cette comparaison, ça renvoie, tu sais, tout ce qu'on a pu lire des fois comme témoignage de gens qui ont été internés, c'est le côté où le temps se déroule pas, l'idée de l'ennui aussi. C'est vrai qu'on imagine la pauvre souris. Déjà, mais même l'idée que même ceux qui sont, parce que ils comparent la femme aux infirmiers, pas aux psychiatres. Les psychiatres, c'est dans un hôpital, c'est sûrement ceux qui se font le moins chier.
Ils comparent le psychiatre au spectateur qui voit.
Alors que la femme qui passe sa vie à remettre une souris dans un labyrinthe est comparée aux infirmiers, si j'ai bien suivi. L'idée de ce temple de l'ennui. Et du temps qui se déroule pas. Et effectivement, je trouve une assez bonne métaphore. C'est ce qui revient toujours quand il y a des témoignages. Oui. L'idée que, déjà, on ne sait pas quand on sortira. Des fois, c'est jamais. Et puis, le temps balbutie comme ça. Enfin, c'est un truc où il n'est pas question que quelque chose de nouveau arrive, même si on prétend que c'est le contraire, parce que c'est pas officiel. Tu vas venir ici pour te faire chier jusqu'à ta mort. Enfin, on dit pas ça ni aux travailleurs ni aux patients. Ouais. Donc tu vois, c'est vrai que je trouve que c'est une assez bonne métaphore. Ça fait assez froid dans le dos d'ailleurs, je trouve. Moi, c'est ça que ça me fait comme impression. Comme je suis comme ça de ce point de vue-là, sans merder. D'ailleurs, l'exemple que je t'ai donné de ça tout à l'heure, c'est pas un jugement sur le fait que ça serait un modèle ou je sais pas quoi, hein. Mais c'est juste une histoire vraie, hein, que je raconte. Mais le fait est que l'idée que son idée était d'échapper à tout prix à l'ennui, c'est quelque chose, et que les autres, enfin ses collègues, étaient sautés sur la moindre occasion d'échapper un peu à l'ennui, quoi. Toute occasion d'échapper à l'ennui est bonne à prendre. Je rappelle d'ailleurs l'émission qu'on avait fait sur Valérie Valère, où il y a carrément de la privation sensorielle comme remède pour les anorexiques, c'est-à-dire que accès absolument rien, l'ennui comme et il y a quelque chose de l'ordre de la torture, quoi, vraiment, je trouve.
Alors on va voir comment ça se passe à ce moment-là, à cette époque-là. Un congrès de psychiatrie, premier après-midi. Bilan du bureau sortant devant une salle comble de congressistes. Pour ce qui concerne nos revendications de l'année dernière sur la filière unique, échec. Le secteur, échec. L'agrégation, échec. Notre rémunération, échec. Puis les gens se répartirent en commissions. J'avais fait accepter une commission supplémentaire moyen d'action. Nous étions quatre à Lyon à avoir suivi Jeannin, le promoteur de l'expédition, syndicaliste convaincu, grand activiste du plan Fouchet. Petit, sec et nerveux, il manifestait une inquiétude fébrile pour l'avenir de la profession et déploya par la suite, accompagné de Collodin, une activité intense au niveau des différents conseils paritaires. Donc Jeannin, on le reconnaît à son corporatisme, on va dire, pour comprendre la suite. Pierre Évrard alla dans la commission politique et psychiatrie. Jeannin et deux autres internes de Lyon allèrent magouiller dans des commissions à sujet corporatiste. Les Lyonnais ne tardèrent pas à se tailler une réputation d'extrême gauche dont je ne suis pas encore revenu, étant donné l'incurie que manifestèrent mes compagnons par la suite. Même Jeannin bénéficia du prestigieux titre de gauchiste. Il y avait au congrès une psychanalyste d'enfants, Madame Haag, militant contre le projet de loi gouvernementale rendant obligatoire la consultation pédopsychiatrique. Elle faisait le tour des commissions pour informer les syndicalistes de l'existence de ce projet qui menaçait de passer et dénonçait cette tentative totalitaire de psychiatrisation de la population dès le berceau. Sa contre-propagande ne rencontra guère d'écho au Congrès qui avait d'autres chats à fouetter. À la commission Moyen d'action, ce fut un dialogue de sourds. Celle-ci se trouvait envahie par un certain nombre de gauchistes primaires, avides de faire sauter la répression administrative, sans savoir au juste exactement pourquoi. C'étaient des internes psychopathes, sensibles aux arguments corporatistes. Alors, ils les appellent psychopathes, mais c'est peut-être un tic de métier, quoi. C'est pas, ça ne peut pas être vraiment scientifique. Donc, c'était des internes psychopathes sensibles aux arguments corporatistes, mais verbalement disposés, au moins au début, à faire sauter les bâtiments pour rompre la monotonie du Congrès, si ce n'est celle de leur quotidien. Des revendications de l'année précédente... Ah oui, du constat d'échec des revendications de l'année précédente. Elle avait donc... Ensuite, éliminer la grève des moyens d'action efficaces, puisque la corporation n'était pas impliquée directement dans la production. Une grève correspondait donc à faire des économies considérables au gouvernement, tandis que ses effets perturbateurs seraient facilement épongés par les médecins-chefs. Donc, on élimine la grève des moyens d'action. C'était l'impasse. Avaient suivi différentes propositions terroristes qui furent toutes éliminées en fin de compte comme incompatibles avec les options par trop corporatistes du syndicat. Personne ici ne voulait se reconnaître poujadiste a posteriori. Toujours en retard de la tendance corporatiste du syndicat, une tentative de sortir de l'isolement en se rapprochant de la base, à savoir les infirmiers et les malades, se révélait impensable. En conséquence, les travaux de la commission en arrivaient à un constat d'inutilité du syndicat. Impossible de transmettre un tel rapport à l'Assemblée générale, dit Madame Haag. Il est démobilisateur et nous avons besoin d'une atmosphère de conflit social dans le domaine de la psychiatrie pour parvenir à intimider le gouvernement. Impossible de faire comprendre à cette maman qui défendait ses enfants qu'il ne fallait pas compter sur des lascars de ce gabarit pour soutenir efficacement une opposition quelconque au gouvernement. Voilà, donc on a une ambiance comme ça.
C'est marrant parce que ça me rappelle que, au contraire, c'est pour dire, c'est pas souvent que je dirais un truc pour qu'il soit un peu moins négatif sur les psys, mais beaucoup plus tard, Sarkozy avait voulu faire une loi pour commencer à détecter de futurs délinquants dès la maternelle.
Oui, oui.
Et ben bizarrement, c'est quand même l'ensemble des psychiatres qui avait eu un tollé pour dire on peut pas faire ça, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait... Enfin, t'as eu un enfant, moi aussi j'ai des enfants, puis des garçons qui sont un petit peu genre rock'n'roll, hein, comme t'as pu le constater. Et en effet, si tu commences à penser que des gosses de maternelle qui se bagarrent, ça veut dire que ça va devenir des gens violents, c'est complètement à côté de la plaque. Et... À leur décharge, effectivement, ils ont quand même fait opposition à cette idée. les psys en général. Donc, enfin les pédopsychiatres, quoi, que c'était pas une bonne idée. C'est, faut croire qu'ils ont des limites, tu vois, maintenant.
C'était le mouvement de pas le zéro de conduite, non, ça
avait... Non, c'était pas un mouvement, c'était simplement des réactions individuelles, on pourrait dire quasiment, à un projet de loi de Sarkozy. Oui. Donc, dans les médias, etc., à titre individuel, ça n'a pas été un mouvement à proprement parler, vu qu'ils ne se sont pas associés. Mais on peut dire que c'était unanime. Il n'y a aucun psychiatre qui a dit « Ah, putain, la bonne idée !» Enfin, tu vois, vraiment pas. C'est à leur décharge. Hein. Ça prouve qu'ils peuvent avoir des limites, quand même, morales, je veux dire. Bon.
Alors, je peux lire encore un peu du texte. Donc là, il va y avoir aussi. Donc, on va en reparler de la commission qu'ils ont formée, qui a été formée par un des types, politique et psychiatrie. Le bureau sortant imposa un déroulement des rapports des commissions, en commençant par la fin, du particulier au général. Le premier rapporteur avait un aspect gauchiste engageant, mais il essaya d'emblée d'intéresser l'assistance à de petites préoccupations obsessionnelles du genre « il faudrait peut-être obtenir une augmentation salariale du travail en IMP, qui soit pour l'interne, en psychiatrie, l'équivalent des heures supplémentaires pour l'ouvrier et dont on peut dire par conséquent qu'il est assuré par ceux d'entre nous qui ont le plus besoin d'argent. » Alors, peut-être... un petit détail avec la note idoine. IMP, Institut privé pour infirmes moteurs cérébraux, alors privé, hein, institut privé, proposant des postes aux internes. Les IMP sont thésaurisés par les internes en place depuis le plus longtemps et leur permettent d'y doubler au moins leur source de revenus. Voilà, donc les heures de travail dans ces trucs-là sont thésaurisées par les infirmiers pour avoir des salaires plus conséquents. Et c'est, ce sujet va revenir quand ils seront revenus à Lyon et il sera à nouveau mis sur la table. Il a fallu bloquer le déroulement du congrès en chahutant tout un après-midi pour obtenir l'inversion du déroulement du rapport des commissions. Les Lyonnais se sont investis ce jour-là d'une irréversible réputation d'enragé qui éclaboussa même Jeannin. Pour moi, cela me fut plutôt la confirmation éclatante de la débilité pratique de ces prétendus intellectuels. Pierre Evra, inspirateur et rapporteur de la commission politique et psychiatrie, se présenta donc le lendemain matin sur le plateau avec la même prestance que Jules César revenu vainqueur de la guerre des Gaules. Il s'installa avec tous les préparatifs protocolaires d'un discours important, puis démontra brillamment et irréfutablement que tous les courants psychiatriques, y compris les tendances dites antipsychiatriques, ne pouvaient être que des manifestations récupératrices du pouvoir. La magistralité du discours, écoutée avec recueillement, fut récompensée avec une salve d'applaudissements enthousiastes. Le rapport fut approuvé par 90% des voix. Je proposai aussitôt qu'il soit intégralement imprimé dans le premier numéro de l'organe d'information que le syndicat allait publier. Nombre d'orateurs vinrent alors s'interposer. Ils étaient tous d'accord sur le contenu, mais ne trouvaient pas tactique que le syndicat prenne noir sur blanc de telle position dès le premier numéro du journal en projet, bloquant ainsi d'emblée de façon définitive l'adhésion au syndicat de nombreux psychiatres en formation qui n'avaient pas encore de prise de conscience politique suffisante, mais que le syndicat pourrait mener progressivement, etc. Je m'étonnais publiquement que les conclusions de la commission politique et psychiatrie, qui avaient visiblement été acclamées par l'opinion générale, trouvassent tant d'opposition à être admises comme plateforme politique du syndicat. On passa au vote. Cette fois-ci, 55% des voix seulement étaient favorables à l'impression du texte, qui passa donc de justesse, ce qui me plongea dans une profonde réflexion. En définitive, on ne voit pas comment la masse des psychiatres en formation aurait pu adhérer autrement que de façon spectaculaire à l'analyse politique de la fonction sociale récupératrice de la psychiatrie, puisque c'était se reconnaître eux-mêmes dans le camp réactionnaire. Ce fut une belle journée, véritablement amusante. Le texte est passé pour la plus grande rage des promoteurs, alors qu'il allait à l'encontre de la fonction réelle du syndicat, illusionné sur l'existence d'une psychiatrie progressiste. Malheureusement, j'ai été le seul à percevoir la contradiction dans toute sa saveur et la mener jusqu'au bout. La ligne à suivre était inscrite dans l'événement. Nous étions fort divertis du spectacle de tous les pantins venant faire leur numéro burlesque d'appel à la raison. Hélas, je m'étais beaucoup illusionné sur les capacités subversives de mes collègues, et notamment de Pierre Évrard, qui, en dépit de relations fort intimes, ne cessa de se désubstancier par la suite, en s'estompant toujours plus haut derrière les nuages brumeux sécrétés par son lacanisme naissant et sa foi quasi religieuse en l'instinct de mort. Alors, petite note sur l'instinct de mort. En fait, l'instinct de mort existe, écrit donc Gérard Hoff, c'est celui de la bourgeoisie, comme c'est attaché à nous le démontrer brillamment par la suite Pierre Évrard en l'incarnant massivement, au propre et au figuré, dans sa corporéité même. Lui et d'autres internes furent incapables d'appréhender leur propre tentative de libération sexuelle autrement que par un psychanalyse interprétatif galopant et des catégories digne d'histoire d'eau. Dès que je me levais pour faire le rapport de la commission moyen d'action, le bureau sortant, qui s'était repris, peu désireux d'en entendre les conclusions, ni de se retrouver en face de ces contradictions, provoqua un chahut concerté, et je parlais dans la confusion générale. Donc, on peut continuer, hein, si tu veux. Alors là, on va parler d'intersyndical. Je m'étais fait repérer par un autre incident quelques jours auparavant, quand un membre de l'ancienne équipe avait harangué les foules en mettant le syndicat des médecins-chefs au pilori. Il montrait tous les signes de la dernière indignation en révélant aux congressistes que le président de ce syndicat s'était ouvertement désolidarisé de son mandat par des déclarations publiques en faveur de l'agrégation, déclarations en opposition manifeste avec les options de son syndicat. J'enchaînais sur le même ton pour proposer la rupture de l'intersyndical psychiatre en formation médecin-chef, attitude dont je soulignais la logique puisque les médecins-chefs se révélaient à ce point irresponsables qu'ils avaient choisi un représentant dont le premier souci fut de les trahir. L'indignation de l'assistance se retourna injustement contre moi. Même la commission moyen d'action, la veille prête à tout casser, repoussa cette proposition. On va parler ensuite de chansons paillardes. Mon comportement au repas offert par les labos avait aussi largement contribué à ce que la masse me rangea du côté des anormaux. Mes études de médecine m'avaient rendu définitivement allergique aux chansons paillardes et je pratiquais une attitude de contre-terrorisme aux obscénités des quelques joyeux lurons délurés qui venaient encore nous submerger sous leur jovialité anale conventionnelle.
Juste une parenthèse, parce que ceux qui avaient raté les épisodes précédents sont peut-être pas très au courant du CV de Gérard Hoff, qui est loin d'être, un coincé du point de vue sexuel, je veux dire. Mais justement, c'est pas qu'il réprouve l'idée de la sexualité, très loin de là, parce que c'est même pas... C'est quelqu'un qui même vivait, enfin, je veux dire, des rapports sexuels plutôt assez débridés, mais c'est plutôt cette conception de la sexualité. Je le précise parce que quand on le lit comme ça, on pourrait croire qu'il réprouverait « Oh, quelle honte !»
Tu as raison de le souligner. Ces joyeux lurons chantaient et avançaient entre les tables en file indienne en se tortillant à cheval sur leurs chaises qui raclaient le plancher. Dès qu'ils passèrent à ma portée, je versais négligemment un grand verre de bière sur un gros ténor bien gras, puis à chacun de leur passage, je jetais avec indifférence sur eux tous les plats qui me tombaient sous la main. psychiatres honteux, sans doute de leur comportement digne du chirurgien moyen, ils étaient si peu fiers qu'ils se sont tus et rassis sans demander leur reste. Plusieurs affables personnes vinrent poliment s'entretenir avec moi quand le repas touchait à sa fin. « Vous n'aimez pas les paillardes ? Tiens, pourquoi donc ? Cela fait partie d'un folklore bien innocent pourtant. » Voilà. Alors, après, là, il y a aussi un épisode où c'est un article qui fait l'éloge des laboratoires, qui est prêt d'être écrit juste avant le départ pour un journal local. Donc, on verra apparaître la situation assez clairement. À un autre repas, mon vis-à-vis, le trésorier du bureau sortant, s'était mis au dessert à rédiger, sur la table couverte de miettes, un article destiné à la gazette locale du lendemain, selon lequel de nombreux apprentis psychiatres venus de toutes les régions de France actuellement réunis en congrès dans notre ville se sont retrouvés hier soir sur l'île de Monsieur Ricard. Grâce au laboratoire Intel, tout le monde avait bien bu, bien mangé et s'était bien amusé. Donc, Monsieur Ricard, donc l'alcoolier, hein, connu. Écrivez, le bateau part dans 5 minutes et après ce sera trop tard pour demain. Le harcelait le représentant debout derrière lui, manifestement fort de l'accord préalable qu'il devait avoir passé avec le bureau, tandis que j'accaparais le trésorier, l'empêchant littéralement de s'exécuter en cassant une assiette chaque fois qu'il se remettait à écrire, coupant ainsi la discussion où je prétendais qu'il n'avait pas à se prostituer de la sorte. C'était un garçon très brave au demeurant, s'excusant mollement sans se sentir concerné. Le bureau l'avait affecté aux basses besognes. Il avait tout aussi bravement rempli la fonction de comptable pendant 1 an sans même avoir eu accès aux magouilles. Tant pis, je l'écrirai moi-même, avait dit le représentant furieux en partant au dernier moment. Un représentant d'un autre labo qui avait l'avantage de dépenser les subventions qui lui avaient été allouées sans zèle, sans propagande et toujours avec les mêmes, assis non loin de là, n'en perdait pas une miette. « C'est ça la publicité » m'a-t-il dit simplement après l'incident quand nos regards se sont croisés. Le trésorier était décidément d'une inconsistance indécrottable. J'avais sympathisé avec lui sur sa bonne mine. Un soir, nous étions sortis ensemble pour danser et avions parlé de l'identité flicchiatrie-psychiatrie. Celle-ci ne semblait pas le déranger outre mesure. Sans grand argument, c'était comme s'il se réservait une autre solution de rechange indéterminée. Au retour, nous passâmes devant une ratonnade. Le syndicat avait logé les congressistes dans quelques hôtels de second ordre d'un quartier populaire. Les flics embarquaient. Des flics embarquaient des Nord-Africains, dans un fourgon. Au moment où ils s'apprêtaient à nous contrôler, il me vint une idée. Je me mis devant et présentai aux flics ma carte de membre du syndicat des psychiatres en formation. « Excusez-nous, » me répond le flic, la main sur le képi. « T'as vu ?» que je lui dis.
« Excusez-nous, collègues.
» Voilà, alors... On peut... Allez, encore un petit dernier, puis on va passer une chanson, juste après. Les quelques paumés psychiatres avaient fini par se reconnaître et mangeaient le dernier jour à une table séparée du banquet. C'était à l'aéroport de Marignane. Ils n'avaient pas la mine réjouie et la rose à la boutonnière du nouveau bureau et de sa clique. Sachant théoriquement à quoi s'en tenir, il n'arrivait pas à ne pas être écœuré en pratique par tant d'hypocrisie. Le nouveau bureau ressemblait à l'ancien, 50% de Parisiens, 50% d'une opposition fantoche qui s'était distinguée dès le premier jour par de longues prises de position pseudo-gauchistes verbeuses. Jeannin et Évrard s'étaient fait élire à une espèce de commission consultative du bureau et... En conséquence, partir un week-end sur deux à Paris cette année-là, se mettre au parfum des dernières cuisines. À la fin du congrès, pendant que la plupart évacuaient la salle, une minorité s'était regroupée autour de Madame Haag, qui avait pris dépressivement le micro pour parler une dernière fois dans le désert du projet gouvernemental de consultation pédopsychiatrique obligatoire. Comme par hasard, ce fut à ce dernier repas qu'un inconnu vint nous dire en douce, affairé et ulcéré, semblait-il, que le syndicat avait négligé dans son ensemble toute une catégorie de travailleurs psychiatriques, étudiants en médecine, qui n'étaient même pas statutairement psychiatres en formation. Les étudiants de province, employés par des asiles de seconde catégorie, souvent dirigés par des religieux, avec un vague titre psychiatrique ne donnant droit à aucune qualification ultérieure, mais dont ils étaient gratifiés par l'administration qui en avait besoin pour son standing. Seule présence médicale dans l'asile, ils étaient payés au lance-pierre par une institution effroyablement rétrograde et inféodés à une morale crasseuse maintenant sur pensionnaires et personnel la pire des répressions mystiques dignes de l'Inquisition espagnole. Je me rappelais subitement que j'avais connu un étudiant dans ce cas à l'asile de Privas quand j'étais externe chez Hochmann. Les traitements neuroleptiques y étaient massifs et systématiques. L'administration s'immisçait et court-circuitait même ses décisions médicales au niveau de la baisse des traitements neuroleptiques. Il s'était insurgé avec des malades et avait eu à cette occasion des ennuis sérieux. L'ambiance de Privas était inimaginable pour un citadin. Le personnel était entretenu dans un régime d'inquisition policière jusque dans sa vie privée. Tout se savait à Privas. Il n'y a que Basaglia à Trieste qui, à ma connaissance, soit parvenu au même résultat dans d'autres conditions. Le bruit courut comme une traînée de poudre qu'une scission déloyale, menaçant la cohésion laborieuse, se faisait jour. En effet, en dépit de l'opinion défavorable de Jeannin et de différentes personnes venant nous en dissuader, nous échangions des adresses et nous donnions rendez-vous le 6 décembre, 9h du matin, à l'internat de l'hôpital psychiatrique de Montfavet. Pour ma part, il s'agissait effectivement de saboter l'unité du syndicat en le coupant de sa base provinciale, de sortir des travailleurs médicaux d'asile comme celui de Privas de leur isolement et d'aboutir à des comités d'action. Et voilà, donc ça c'était le congrès à Marseille.
Justement, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de revenir encore sur ce bouquin, parce que la question c'est que là, à ce stade-là, il en est visiblement encore à espérer réformer l'institution de l'intérieur. Donc il y a une sorte de hiatus, quoi. Je veux dire, comment il en est arrivé de cet état d'esprit où visiblement il nourrit encore l'espoir que d'une espèce de changement de l'intérieur, d'une
émulation,
d'une psychiatrie institutionnelle à visage humain, à je serai plus psychiatre, donc à une rupture, ce qui semble être la seule véritable issue. Donc à ce stade-là, il manque encore, comme il reste plus que 5 minutes,
oui.
il manque encore, je trouve, des éléments. Donc, personnellement, je serais pour que on refasse encore, parce que ce bouquin, c'est quand même un des rares bouquins où il y a vraiment une idée de rupture et de discours politique par rapport à la psychiatrie, quoi. Je sais pas ce que t'en penses.
Ce serait avec plaisir.
Voilà, donc je pense qu'on pourrait parce que là, quand on s'arrête là, il reste quand même un questionnement. Pourquoi est-ce qu'il a décidé de ne plus être psychiatre? Là, visiblement, pas du tout le cas. À ce stade-là.
À ce stade-là, d'ailleurs, là, il était externe encore, et il allait bientôt passer des concours pour être élevé en grade, quoi, pour s'élever en grade. Ça pourrait être raconté justement la prochaine fois. Et en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que là. On voit qu'il est dans une situation où il essayait vraiment de faire bouger les choses, de changer les choses, carrément de dans une dynamique de faire la révolution, enfin vraiment quoi. Et donc de motiver ses troupes en quelque sorte, enfin d'essayer d'avoir des alliés dans ce sens.
Dans le sens de changer l'institution de l'intérieur.
De l'intérieur
donc
et en
c'est
profondeur.
Ça que je voudrais savoir quand est-ce qu'il est allé vers l'idée de il n'y a pas d'espoir dans ce.
Mais voilà,
dans cette direction,
c'est ça. Disons que c'est là, on est un peu dans cette expérience de tentatives de voilà. vraiment changer les choses.
Donc il manque encore des épisodes, je trouve. Si
oui,
tu
oui,
veux
tout à fait. Mais ce qu'on peut dire de ce qu'on a pu lire aujourd'hui, c'est que justement ce mouvement est mal suivi. Il avait au départ des espoirs sur certaines personnes d'être suivi dans ces perspectives d'action. Et a été déçu, en fait.
Oui, mais si tu veux, si ça s'était arrêté à cette déception, ça aurait voulu dire qu'il croyait qu'on pouvait, dans un cadre institutionnel, réformer vraiment de l'intérieur. Donc, le truc, c'est que c'est pas seulement... Enfin, d'après ce que je me rappelle du livre, oui. c'est un petit peu comme... Enfin, moi, on dit souvent, nous, dans l'émission lundi matin, avec Laurent et Nicolas, qu'on peut pas faire une bulle anticapitaliste dans une société capitaliste, que c'est extrêmement limité ce que tu peux espérer parce que c'est pas la nature même de ce dans quoi tu es, quoi. Et ben disons que l'espoir en se réunissant de réformer vraiment, enfin d'avoir vraiment une réforme qui ressemble à quoi que ce soit dans un cadre comme celui-là, ça n'existe pas dans le cadre institutionnel, même qu'ils auraient été vachement beaucoup, qu'ils auraient vraiment réussi à un peu fédérer, à faire un syndicat sur ces bases-là, pas ultra massif, mais enfin, voilà, ben, par essence, l'institution, elle ne peut pas être réformée de l'intérieur. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais lui, c'est ce qu'il a fini par comprendre. C'est pas ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas seulement par déception factuelle, si tu veux, du fait qu'il n'avait pas réussi suffisamment à trouver des gens qui étaient sur ses bases. C'est que c'est vraiment le concept lui-même comme quand on se dit, tiens, on va faire des alternatives en actes, et puis à force, le capitalisme, on va le crever de l'intérieur. Mais non, ça marche pas. Tu vois, et pour faire cette prise de conscience-là, visiblement, il en est encore au stade précédent, où il croit encore que c'est possible de réformer de l'intérieur. Que, voilà, qu'une psychiatrie institutionnelle à visage humain serait possible.
Oui, et puis l'exemple de Privat là, qui a été évoqué à la fin de ce chapitre, où des jeunes étudiants qui veulent faire changer les choses au niveau de l'institution, des institutions privées et un peu religieuses apparemment, celles auxquelles étaient d'ailleurs confronté aussi Basaglia en Italie, où vraiment ce qu'il avait réussi à faire fermer littéralement, c'était des institutions comme celle-là, très 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 religieuses, tenues par des religieuses, où les gens étaient vraiment enchaînés dans des cachots, etc.
Ça fait dire que, en effet, tu fais bien de le préciser, en effet, on peut quand même essayer de limiter les dégâts. Dans un cadre institutionnel, et puis par rapport au capitalisme, tu peux lutter pour limiter les dégâts. Mais c'est simplement, effectivement, ça n'a rien à voir avec une conception vraiment, justement, humaine et radicale de ce que pourrait être le rapport à la prétendue folie, par exemple, le rapport médecin-malade en général. Et en effet, tu dis pas, puisque je parle du capitalisme, je trouve que c'est bien de lutter contre tous les abus, mais en même temps, il y a quelque chose qui fondamentalement ne peut pas être changé autrement que par une rupture radicale. Ça m'amène. Je disais, je sais que tu voulais passer une musique, mais
La musique, je la passerai dans 4 minutes après.
Oui, d'accord. Une petite annonce par rapport à un débat organisé par le groupe Libertaire d'Ivry.
Ah oui, oui.
Dont je fais partie, et donc par aussi l'équipe de lundi matin sur Radio Libertaire tous les lundis de 11h à 13h. On va passer à Publico le dimanche 15. À 16h, on va projeter un film qui s'appelle L'effet nocebo, Ça n'a rien de médical comme histoire, mais justement, le thème du débat, c'est comment sortir du capitalisme. Et sur l'idée, par exemple, de la division des tâches, il ne s'agit pas seulement... par exemple, il y a des gens qui disent « Ah bah oui, mais quand même, puisque ça va parler de... » c'est un thriller fantastique qui fait un peu peur, hein, quand même. Il n'est pas sanglant, mais il faut un peu les miquettes, un peu. Mais le truc, c'est que si tu veux, justement, c'est sur l'idée de la division des tâches. Il y a des gens qui pensent que ça irait de simplement porter le syndicalisme, puisque là, c'est une usine des Philippines dont il est question, de porter le syndicalisme dans les usines du tiers-monde. Mais nous, c'est la division, ce type de division des tâches qu'on remet en cause. Or, ça ne sera jamais vraiment remis en cause. Pourquoi personne n'a envie volontairement d'aller travailler dans une usine. Mais il y a des conditions qui sont... C'était encore pire à une époque. Et les choses peuvent aussi s'aggraver. Et par le syndicalisme, tu peux effectivement espérer limiter les dégâts. Mais nous, comme on est révolutionnaires et anarchistes, c'est la division des tâches qu'on remet en cause. Dans le film, il y en a une qui est styliste et puis les autres qui sont enchaînés littéralement à une usine, et c'est basé sur une histoire vraie, une usine des Philippines qui a brûlé faisant 72 morts. Donc voilà quoi, tu te dis, bon, évidemment, on pourrait lutter pour qu'il y ait des meilleures conditions de sécurité, mais notre objectif, c'est pas celui-là. Et l'objectif qui est le nôtre, on l'aura pas dans ce cadre-là. Voilà, en un mot commençant, je pense que c'est la même chose en ce qui concerne l'institution psychiatrique. Le rapport à la prétendue folie, il changera pas tant qu'on sera dans un cadre comme celui-là.
Bah, c'était très dans le présent, ça, cette idée-là, dans le mouvement qui a fréquenté Gérard Roff, le SPK. SPK Socialistisch Patienten Collectif. Ces tracts aussi contre, enfin disons pour la, comment dire, créé l'International des Fous Furieux, Heidelberg, mais auparavant il avait aussi écrit un tract, donc un tract d'information qu'ils avaient sorti pour une diffusion dans les facs et milieux universitaires. Donc c'était un moment où ils avaient jugé qu'il leur fallait introduire l'opinion publique, la presse et entre guillemets progressistes, pour employer une terminologie maoïste. Donc Gérard Roff était convoqué à un examen psychiatrique à Dijon, et le groupe avait décidé d'y aller à 10 ou 15 après avoir informé la presse avec des entonnoirs sur la tête, déguisés en fous, et de déclarer que nous étions tous Gérard Roff et que nous souffrions d'un dédoublement de la personnalité. Cela ne s'est pas fait pour d'autres raisons. Et l'affaire a changé de rubrique et s'est conclue en simple procès verbal. Ce tract répondait aussi aux questions de tous ceux qui entendaient parler du vinatier, nous savaient concernés et voulaient comprendre. Il peut tenir lieu de plan. Alors, je ne vais pas le lire tout entier, mais surtout un passage qui corrobore complètement ce que tu dis, je trouve, et qui est, on le pense, écrit de la main de Gérard Roff. Enfin, cette partie-là du tract, alors que le tract en général est écrit par un collectif. Le temps de la révolte a sonné, le temps de prendre en charge notre destinée et de nous unir contre ceux qui tenteraient encore de nous faire croire que la maladie mentale est une maladie et qu'en conséquence, elle peut être soignée. Ensemble, nous affirmons que la folie est du côté du désordre établi qui nous agresse chaque jour dans notre société déréglée qui court à sa perte et à la nôtre. C'est complètement fou d'avoir faim dans notre société d'abondance. C'est complètement fou de travailler en équipe à la chaîne. C'est complètement fou toutes ces files de voitures bruyantes avec une seule personne dans chaque véhicule. C'est débilitant d'habiter dans de grands ensembles désertiques à 2 heures du lieu de travail. Nous en avons assez que nos enfants soient parqués dans des cours de récréation bitumés pour éviter qu'ils prennent racine. Nous en avons marre d'être transplantés, fils de parents transplantés. Nous refusons la campagne désertée et la ville désertique. Le réputé malade mental est en fait un résistant. Seuls les savants vendent leur cerveau aux affameurs capitalistes. Nous n'aurons de cesse que de contrôler les cauchemars de ces fous dangereux capables de nous inventer d'autres saloperies scientifiques telles que bombes bactériologiques, Vietnam, bombes atomiques, neuroleptiques, insecticides, lessives aux enzymes qui tuent notre mer l'océan bien sûr. Nous n'avons pas de planète de rechange. Il est grand temps que nous prenions notre destinée en main et en nous prononçant franchement du côté de la vie. Etc. Et ben voilà, on peut peut-être conclure sur ces mots-là.
On pourra dire Gérard Ranf le retour la semaine prochaine.
Et voilà, par exemple. Bien, au revoir à toi et au revoir à tous nos auditeurs et nos auditrices. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
La Terre a 3 milliards d'habitants. Personne n'a été capable d'écrire ce simple télégramme « Je t'aime, puis-je venir ?» signé Gaston. Aujourd'hui, les femmes ont rêvé qu'elles faisaient l'amour avec leur père, des bonnes ont quitté les familles bourgeoises l'injure à la bouche, les testicules des hommes ont remonté et ils les ont attachés avec des bouts de laine torsadés. Des petites filles de l'âge de pierre ont chanté dans les trains des mélopées sauvages ignorées de leur mère. La réponse à tous les télégrammes envoyés par les gens a été « Reste où tu es ». Quant à moi, je ne suis pas morte au Soudan. De temps en temps, le téléphone crie et il faut lui donner à boire. La radio, elle, a commencé à diffuser des vieilles rengaines. En Italie, il y a des chemises grises. Ici, on a beaucoup reparlé de la chaude pisse des Algériens. C'est le signe qu'une chose grave va se passer, mais très loin, là, dans la rue, près de cette table, là. Les CRS se massent partout comme des buissons de mûres. 1er juillet, l'essence est au pouvoir. Ça va sauter d'une seconde à l'autre. Les chauffeurs de taxi répandent partout le bruit que la peur n'évite pas le danger.